réalisation, Christian Morero.
Extrait du documentaire La Grèce antique, origine de notre civilisation.
Les Grecs, un peuple glorieux, arrogant, valeureux et opiniâtre. Un peuple qui, il y a bien longtemps de cela, posa les jalons de la civilisation occidentale. Les monuments, dont il ne nous reste que les vestiges, ne sont pas sans rappeler les deux siècles probablement les plus importants de leur histoire. Une époque où la science, la politique, la philosophie, la littérature et le théâtre virent le jour. Sans oublier un art et une architecture encore inégalés aujourd'hui.
Bonjour, je suis Anne-Françoise Jacotet. Je suis chargée de cours à l'Université de Genève en archéologie classique et en histoire ancienne.
Quelle a été votre formation ?
Alors j'ai fait mon université à Lausanne en choisissant trois branches relativement centrées, comme vous verrez, le latin, le grec et l'archéologie classique.
Et comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la Grèce ?
Beaucoup d'enfants ont envie d'être archéologues. Après, ça se concrétise plus ou moins. Pour moi, ça s'est concrétisé, certainement via aussi l'étude des langues anciennes, le latin d'abord, le grec ensuite au collège. Ça a été une révélation. Et donc, j'ai eu envie de voir quelle était la civilisation qui allait autour de cette langue, dont la langue était vraiment le vecteur.
Avec vous, nous allons donc à Athènes, dans l'Antiquité, visiter non pas l'Acropole, qui a déjà fait l'objet d'une émission monumentale disponible sur le site rts.ch, mais tout près du grand monument, sur un espace encerclé de ruines qui raconte l'histoire de cette cité-État, et plus largement de l'Occident, l'Agora. Quelle a été votre première impression, Anne-Françoise Jacotet, quand vous avez découvert cette place ?
L'Agora d'Athènes. Alors, après, les souvenirs se mélangent parce qu'on n'y va pas qu'une seule fois. L'Agora d'Athènes, on la connaît d'abord quand on fait des études d'archéologie, on la connaît d'abord par les plans, donc on sait à peu près quels sont les monuments, à quelle époque, etc. Quand on va sur le terrain, qui est maintenant un grand parc archéologique, évidemment, on est frappé parce que toutes les traces de toutes les époques sont évidemment mélangées, comme toujours, avec l'archéologie. Et on a tout d'abord un peu de peine à se repérer, à savoir, ce bâtiment qui est peut-être particulièrement important pour moi, où est-ce qu'il est, et voilà. Donc la première impression, c'est un foisonnement complet parce que tout nous vient à la figure en même temps, et on met un petit peu de temps à se repérer et à refaire mentalement les strates chronologiques qu'on connaît de façon théorique.
Est-ce qu'il y a un endroit ou un monument, un objet sur cette place auquel vous êtes particulièrement attaché ?
Oui, c'est un petit objet, ça n'a rien de monumental. C'est une pierre taillée qui fait à peu près 20 cm de large sur 60 cm de haut, qui est fichée en terre à l'angle grosso modo sud-ouest de l'Agora, et qui porte une inscription en grec, grec archaïque. On a pu la dater justement de la fin du 6e siècle, donc entre 510 et 500, qui porte une inscription « Horos eimi tes agoras »« Je suis la limite de l'agora ». Et ça, c'est un monument qui me fascine complètement, parce que, en même temps, cela dit l'immatérialité de l'agora, qui est une place vide, qu'il faut délimiter pour qu'elle existe. Et cette délimitation, elle ne se fait pas par une barrière, elle se fait par une petite borne. Une borne qui parle, ce qui est normal pour les objets dans l'Antiquité grecque. Les objets parlent de façon naturelle. Un vase ou une statue dira « je suis la propriété d'un tel » ou bien « tel et tel m'a fait ». Donc c'est tout à fait normal que la borne parle. Mais dans ce cas de figure-là, c'est vrai que cet espace de l'agora qui est délimité par la parole, alors que c'est justement l'espace de la parole, ça fait un jeu d'écho comme ça qui me plaît bien. C'est toujours très difficile de placer un début aux choses, et surtout aux choses comme une agora. Ce que l'on sait, c'est que l'agora est vraiment consubstantielle de la notion de cité grecque, cité-état, donc qu'il faut considérer comme une ville. entouré de son territoire, qui forme vraiment un État indépendant. Et la Grèce est donc formée, à partir du 8e, 7e siècle, c'est là que ça commence, de petites cités-États, qui d'ailleurs vont être en concurrence, voire en guerre permanente les unes avec les autres, et qui sont donc très indépendantes. Pour la gestion de ces cités-États, on voit émerger ce concept de façon assez généralisée dans le territoire grec, enfin ce qu'on appelle plus tard le territoire grec, et l'agora semble jouer un rôle, disons, catalyseur dans cette création-là. Après, vous dire quand est-ce que ça commence véritablement, c'est toute une énigme. Et les Grecs avaient aussi une façon d'exprimer les problèmes que pose la création d'une agora, donc la création d'un concept qui va avec le concept de cité grecque. Par exemple, Pausanias nous raconte qu'à Mégare, qui est une cité juste voisine d'Athènes, en direction de Corinthe, on voulait donner à la cité la constitution qui lui permettrait d'être la plus prospère possible. Et toujours, quand on voulait s'assurer d'un bon résultat de quelque chose, on allait consulter l'oracle de Delphes. Alors, il y a un délégué de la cité qui va vers l'oracle de Delphes et qui lui pose la question « Comment faire pour que la cité soit la plus prospère possible ?» Réponse de l'oracle « Il faut gouverner avec les plus nombreux. » Alors, dans notre tête à nous, actuellement, ça veut dire démocratie, bien évidemment. C'est un terme qui était tout à fait anachronique pour l'époque, disons, à laquelle est reportée cette anecdote. Mais le délégué et la cité en question vont réfléchir, bien sûr, à cet oracle. Les oracles sont toujours à interpréter. Et ils vont considérer que les plus nombreux, ce sont les morts. Évidemment, ils sont toujours beaucoup plus nombreux que les vivants. Donc, les mégariens vont installer l'agora sur une nécropole. Et donc, gouverner en lien avec les ancêtres, si vous voulez. On peut constater dans de nombreuses cités, et à Athènes c'est le cas en particulier, que avant que l'agora n'existe, entre guillemets, il y avait des tombes dans cette région-là, tombes qui peuvent être utilisées jusque vers 700 à peu près, j'y vais très grosso modo comme cela.
Où se trouve cette agora d'Athènes ?
Alors, elle se trouve, si vous voulez, on peut dire au pied de l'acropole. Elle est bordée à l'ouest par une petite colline qui s'appelle Kolonos Agoraios, donc la colline de l'agora. Et elle est sur le chemin qui mène depuis une des portes principales d'Athènes. La porte qui donne sur l'Académie, qui est un faubourg extérieur. Donc cette voie va entrer dans Athènes, traverser l'agora, tourner pour pouvoir ensuite monter sur l'acropole.
Donc elle est inévitable, cette place.
Non, elle est inévitable.
Pour qui veut circuler dans la ville.
Exactement. Elle est en tout cas un point de passage très important, symboliquement aussi. Passage de procession dont on parlera peut-être après aussi. Donc elle a tout de suite une place centrale, pas forcément topographiquement, mais dans l'organisation du concept de cité.
Une éphémère éternité, moment de grâce et de beauté, une rencontre où chaque instant dure jusqu'à la fin des temps. Une éphémère éternité, dans la plus douce volupté, sans rien avant, sans rien après, sans espérance ni regret, pour la promesse du plaisir, pour la caresse d'un sourire, et pour s'aimer sans se le dire, pour n'avoir jamais à mentir. Une éphémère éternité d'une tendre complicité, une éphémère histoire d'amour que l'on invente au jour le jour. Une éphémère éternité dans la même lascivité, à quelques pas du paradis, sans tabou et sans interdit, une oasis que l'on partage, où l'on se perd dans des mirages, le cœur et l'âme ensoleillés et tous les sens émerveillés. Une éphémère éternité, moment de grâce et de beauté, une rencontre où chaque instant dure jusqu'à la fin des temps. Une éphémère éternité qu'elle vient parfois m'accorder, avant de traverser Paris pour retourner chez son mari. Une éphémère éternité qu'elle vient parfois m'accorder avant de traverser Paris pour retourner chez son mari. Au revoir mon amour, à la semaine prochaine.
Je me trouve ici devant l'Agora. Dans l'Antiquité, c'est une grande place à ciel ouvert. On peut y rassembler tout le peuple pour des raisons diverses. Tel jour, la place était préparée pour procéder à une élection. Le lendemain, c'était jour de marché et on y trouvait tous les étals. Et le jour suivant, elle pouvait accueillir un concours d'athlétisme. C'est la place centrale faite pour rassembler tous les citoyens.
Extrait du documentaire « L'épopée de la Grèce antique », voix de John Camp, archéologue.
Quand est-ce que l'Agora d'Athènes va peu à peu se dessiner, c'est-à-dire voir surgir des monuments autour d'elle pour la délimiter ?
À partir du VIe siècle, commencent vaguement à s'installer certains monuments sur la bordure ouest de l'Agora, qui vont être des bâtiments fonctionnels et peut-être symboliques aussi. Il y a probablement, parmi les premiers bâtiments, l'Élier, donc le tribunal, qui remonte plus loin comme institution, peut-être à Solon même, donc au début du VIe siècle, vers 594. Élier, qui représente un premier stade de démocratie, même si ce terme, comme je l'ai dit, est déjà anachronique tout à fait à cette époque-là, un tribunal populaire, c'est-à-dire que c'est les citoyens qui sont tirés au sort pour devenir juges des affaires qui doivent être jugées. Donc ce bâtiment prend place au sud de la place. Très vite, on va avoir des bâtiments donc sur le côté ouest, le long de la colline de l'Agora, la Kolonos Agoraios, qui vont être le bâtiment pour la boulée, c'est-à-dire le conseil des 500 depuis la réforme de Clisthène en 508-507. Donc l'organe vraiment de délibération et de proposition de nouvelles lois et autres, qui fait le pendant à l'Assemblée du peuple. Mais aussi des temples, comme un temple d'Apollon Patroos, très vite un temple de la mère des dieux, divinité qui va très vite s'implanter à Athènes, et le portique royal, Stoa Basileios, qui sera le lieu d'activité de l'archonte roi, qui est un des trois archontes principaux. Il y a 9 archontes, mais disons, il y a 3 archontes principaux. L'archonte éponyme, qui va donner son nom à l'année. On compte les années par le nom des archontes éponymes, comme à Rome, on comptera les années par le nom des consuls, etc. L'archonte roi, justement, qui s'occupe de toutes les affaires religieuses et des crimes qui ont à voir avec la majesté des dieux et l'impiété, des choses comme ça. Et l'archonte polémarque, qui s'occupe des affaires de la guerre, bien sûr. Il y a 6 autres archontes qui sont les thesmothètes, qui sont là dans un rôle plus législatif peut-être, proposer des lois, des décrets et des choses comme cela.
Donc on voit que dès le départ, cette agora va remplir une fonction à la fois politique et religieuse.
Absolument, et d'ailleurs il y a une chose que j'ai pas mentionnée, mais peut-être aussi parmi les premiers monuments entre guillemets de cette place, qui est d'abord justement une place, hein, donc un vide. Les monuments sont finalement des ajouts, c'est secondaire. Hein. Ce qui est premier dans l'agora, c'est vraiment l'espace.
Ils délimitent finalement la place, l'espace vide.
Ils vont former une sorte de barrière monumentale qui se met d'abord en place sur l'ouest, dont on verra qu'elle se concrétise ensuite plus sur les autres côtés de la place. Mais un des premiers monuments, c'est l'hôtel des 12 dieux.
On peut le voir encore, cet hôtel ?
On peut en voir un tout petit coin, parce que il y a eu une tranchée, une grande tranchée qui a été faite en 1890-1891 pour la construction du train Athènes-Pirée. Alors ça a été aussi un peu le moment de la découverte, entre guillemets, de l'Agora. Actuellement, on ne voit plus qu'un petit coin de l'enceinte de cet hôtel. Déjà, l'importance d'avoir un hôtel des 12 dieux. 12, ça veut dire l'entièreté, quelque part. Ça, c'est quelque chose qui évoque la complétude. Donc les 12 dieux sont là comme garants en même temps de cette place-là. Et probablement que très tôt, cet hôtel des 12 dieux est devenu le point central à partir duquel on comptait toutes les distances dans la ville et dans la région. Donc ça a un côté à la fois religieux et en même temps très pratique, symboliquement pratique.
Qu'est-ce qu'il reste vraiment autour de cette place? Qu'est-ce que je vois si je m'y rends demain?
Comme je vous l'ai dit, c'est un parc archéologique. Suivant la saison, vous aurez de l'herbe verte, de l'herbe brûlée ou pas d'herbe du tout. Beaucoup de ruines qui sont pas très hautes, disons, avec des petits panneaux qui vous expliquent ce qu'il y avait. Mais vous avez deux monuments qui sont debout. Vous avez l'Héphaïstéion, donc le temple d'Héphaïstos, qui a été conservé parce qu'il a été très tôt transformé en église, et donc il a toujours été utilisé, alors certes avec des modifications internes, mais la coquille externe du temple est restée telle qu'elle. Donc c'est un temple qui est toujours debout et qu'on peut voir. Et en face, si vous voulez, sur le côté est de l'Agora, vous avez la très monumentale stoa, ou le très monumental portique d'Attale II, qui est une construction qui a été reconstruite par les Américains. Américains qui ont entrepris les fouilles à partir de 1931, fouilles qui continuent encore actuellement. Il y a juste une interruption de 6 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette stoa a été reconstruite avec les éléments qu'on avait entre 1953 et 1956, avec des fonds de mécénat, notamment Rockefeller, etc.
Donc on n'a pas fini de découvrir ce qu'il y avait sur cette agora. Vous dites qu'il y a encore des fouilles.
Ah oui, il y a encore des fouilles. Alors, découvrir un bâtiment nouveau, monumental, certainement pas, mais actuellement on fouille très finement et on fait des tas de découvertes qui sont importantes pour la chronologie. Donc on a aussi beaucoup fouillé les tombes dont je vous parlais tout à l'heure, tombes géométriques ou submycéniennes, et ça affine la compréhension de ce qu'il y avait avant l'agora. Mais aussi on reprend des fouilles à des tas d'endroits, on trouve des choses dans des puits notamment qui peuvent faire beaucoup avancer la compréhension du fonctionnement de l'agora.
Anne-Françoise Jacotet, archéologue chargée de cours à l'Université de Genève, spécialiste de la Grèce antique.
Revenons à cette époque où commencent à surgir ces bâtiments qui délimitent l'agora. Comment y vivait-on sur cette place ?
On sait que c'est un espace extrêmement vivant. Elle prend un rôle politique à certains moments. Elle servait aussi de marché. D'ailleurs, si vous regardez au point de vue des termes, donc le terme d'agora est un terme extrêmement ancien qui vient même de l'époque mycénienne, donc qui existait déjà en 1300, 1200 avant notre ère, avec un autre sens. Hein. C'était pas assemblée politique, hein. Ça avait plus à faire avec la vie champêtre, mais qui va rester dans la langue grecque, qui va devenir ce concept de place à destination politique, mais aussi commerciale, etc. Et ce terme-là va donner deux verbes, notamment le verbe agoreo, qui veut dire parler, et l'un autre, agorazo, qui veut dire aussi faire son marché, etc. Donc c'est certainement une place multifonctionnelle qui rappelait à chaque personne qui passait, disons, le sens politique et symbolique de cette place. Il y avait une base qu'on n'a pas retrouvée, voilà, il faut reconnaître les lacunes de l'archéologie, une grande base sur laquelle étaient posées 10 statues en bronze qui représentaient chacune le héros éponyme d'une des tribus de la cité. 10 tribus, 10 héros éponymes, c'était le fruit de la réforme de Clisthène, qui est la réforme, disons, qui va le plus dans le sens de ce que nous appelons une démocratie, même si au temps de Clisthène, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait une isonomie, donc une répartition égale, si vous voulez. Et c'est cette répartition du peuple nouvellement en 10 tribus, ce grand chamboulement du découpage politique et administratif qu'a opéré Clisthène, a complètement reformé la conception même de la gestion de la cité et de la participation des citoyens à la vie politique. Donc vous étiez confronté à cette base des 10 héros éponymes. Et en même temps, là où on voit qu'un monument peut raconter l'histoire aussi, c'est que ce monument va évoluer au gré des aléas politiques d'Athènes, et qu'on va ajouter des tribus, par exemple à la fin du IVe siècle, en l'honneur de grands personnages qui auront fait quelque chose de particulier pour Athènes, qui va être considéré comme un bienfait pour Athènes, notamment de grands personnages macédoniens, Antigone le Borgne et Démétrios, qui sont donc, si vous voulez, dans la suite d'Alexandre le Grand, une fois qu'Alexandre le Grand est mort. Antigone et Démétrios, l'un après l'autre, vont apporter des choses à Athènes, qui n'est plus indépendante sur le plan extérieur, mais on va créer en leur honneur des tribus. Donc ça veut dire qu'on change, c'est pas rien, on change la répartition du peuple en l'honneur de grands généraux étrangers qui ont apporté quelque chose à la cité.
Ασπάσει το μπουζούκι μου η μόνη συντροφιά μου απ' το μεράκι το πολύ που νιώθω στη καρδιά μου απ' το μεράκι το πολύ που νιώθω στη καρδιά μου θα σπάσει το μπουζούκι μου η μόνη συντροφιά μου. Κοίμιζα τα βράδια στο τιβάνι με το φτωχό μπουζούκι μου σου λέγα νάνι νάνι με το φτωχό μπουζούκι μου σου λέγα νάνι νάνι θυμίσου πως εκοίμιζα τα βράδια στο τιβάνι. Ξενυχτάκι απ' το κοντά σε μένα δίχως ελπίδα να χτυπά μερονύχτα για σένα δίχως ελπίδα να χτυπά μερονύχτα για σένα βαρέθηκε να ξενυχτάκι απ' το κοντά σε μένα.
Avant Jésus-Christ. Une révolution a commencé ici qui va transformer le monde. Dans une période de chaos et d'anarchie, la population d'un minuscule état appelé Athènes a pris le contrôle de sa ville et instauré la démocratie pour la première fois dans l'histoire.
Monumental, Anne Lorganac.
Est-ce que l'on peut dire que l'Agora, c'est le lieu de naissance de la démocratie ?
Oui, elle en est la manifestation, l'expression. Est-ce qu'elle en est le moteur? Ça, c'est encore une autre histoire. En tout cas, on voit que le développement de l'agora et de la démocratie sont deux phénomènes concomitants. Cela dit, vous avez des agora dans des cités qui sont oligarchiques. Donc, on peut pas dire qu'une agora est forcément le signe d'une cité démocratique. Tout ce que l'on peut dire, c'est que au moment où se forme le concept qu'on appelle la cité grecque, l'agora semble vraiment nécessaire, même si on n'est pas encore en démocratie. Il y a, disons, une idée au départ de partage du pouvoir. Après, si ce partage entre quelques-uns, ça fait une oligarchie, entre un peu plus, ou vraiment une participation du peuple entier en assemblée du peuple, ça, c'est des variations qui vont exister selon les cités, selon les moments, etc. Ça nous renvoie aussi une image de notre démocratie que l'on conçoit comme un concept. Pour nous, la démocratie, c'est... D'abord, on la définit rarement. Il y a, je pense, des degrés de démocratie.
Comme si elle allait de soi, au fond. Hein.
Oui, voilà. Mmh. C'est devenu d'ailleurs un slogan actuel. Donc, on définit pas la démocratie telle qu'on l'entend. Et je pense qu'on aurait intérêt à essayer de trouver une définition vraiment stable de la démocratie. Je sais pas si on peut y arriver. Mais en tout cas, on voit qu'il y avait en Grèce ancienne, des ferments d'une envie d'avoir un partage du pouvoir, quelque part, et de ne pas avoir un roi qui impose le pouvoir.
Mais pourquoi ici, à cet instant, dans l'histoire? Qu'est-ce qui fait que Ça s'est passé là, à Athènes?
Ah, c'est pas seulement à Athènes. Hein. Oui, bien sûr, on peut dire que la démocratie a pris une forme particulière à Athènes. Et on aime bien dire que Athènes est le berceau de la démocratie, ce qui est en grande partie complètement vrai. Alors, je ne sais pas si on peut apporter une réponse unique, parce que, comme je vous ai dit, c'est un lent processus avec des stades, des poussées, des retraits. La réforme de Clisthène en 508-507 est une poussée incontestable. Il y avait Solon avant lui. Après, il y a eu l'épisode entre Solon et Clisthène. Vous avez un épisode tyrannique, mais tyrannique dans le sens antique du terme, c'est-à-dire un tyran, quelqu'un qui prend le pouvoir lui-même en s'appuyant sur le peuple contre les aristocrates. Des démagogues, si vous voulez. J'ose pas employer le mot populiste, mais peut-être qu'on est des fois tenté de le faire. Donc il y a un petit peu ce développement par à-coups qui va mener par moment, par exemple vers le milieu du 5e siècle, à ce qu'on pourrait appeler une démocratie radicale, où il y a beaucoup de charges qui sont tirées au sort. Il ne s'agit même pas d'élire des magistrats ou des juges, ou je crois, mais beaucoup sont tirés au sort, ce qui montre vraiment ce concept d'égalité des chances de tout le monde, en tout cas en théorie.
Et ce tirage au sort se fait sur la place, l'agora d'Athènes.
Oui, enfin, tout à fait.
Puisqu'on parle d'Athènes.
On a quelques vestiges de jetons. La plupart du temps, c'était mis dans une urne, c'est-à-dire que ça pouvait être un grand vase, une sorte de jarre dans laquelle on pouvait mettre simplement les jetons. Et un des principes, disons, de la démocratie, entre guillemets, athénienne, qui va beaucoup marquer les esprits, c'est le vote pour l'ostracisme. C'est-à-dire que, dans une assemblée du peuple, on va décider est-ce qu'il y a une personne, ou plusieurs personnes, dans la vie politique athénienne, qui sont dangereuses pour l'équilibre de la cité, et qu'elles veulent prendre trop de pouvoir, etc. Si l'assemblée dit oui, alors à ce moment-là, on se rassemble sur l'agora, parce que, l'Assemblée du Peuple a déménagé à peu près vers la fin du 6e siècle sur une colline juste avoisinante. Donc une colline avec une légère pente permettait une meilleure audience, si on peut dire, de la chose politique qu'une agora plate quand il se mettait à y avoir beaucoup de citoyens. Donc si l'Assemblée sur la Pnyx, cette colline, décidait qu'il y avait lieu de procéder à un vote sur l'ostracisme, on avait une deuxième assemblée qui était organisée sur l'agora, et là, chacun inscrivait sur des tessons de céramique, ostracon. Ostracon, au départ, ça veut dire la coquille d'huître, mais ça peut être tout petit tesson de céramique. Donc on inscrivait le nom de la personne qui nous semblait être dangereuse pour la vie politique, et on le mettait dans une urne. S'il y avait plus de X milliers de voix contre telle et telle personne, cette personne était gentiment priée de quitter la ville pour 10 ans, mais sans perdre ses biens, qui permettent de continuer à gouverner sans avoir cette personne qui pourrait être dangereuse.
Anne-Françoise Jacotet, archéologue, chargée de cours à l'Université de Genève, spécialiste de la Grèce antique.
bien sûr que ça a évolué, vous imaginez bien, vers des sortes de règlements de compte, ça c'est inévitable. Mais par exemple, pour une période qui est celle qui précède juste la deuxième guerre médique, donc là où les Perses, avec Xerxès à leur tête, vont attaquer une deuxième fois après Marathon la Grèce, Thémistocle, qui est un homme politique en train de monter et qui a une politique qu'il veut instaurer qui est complètement nouvelle et peut-être déstabilisante, qui veut justement construire une flotte comme défense vraiment de la cité et non pas d'entourer la cité de murs plus solides, eh bien on voit que deux opposants politiques de Thémistocle vont être ostracisés, ce qui va permettre à Thémistocle d'imposer quand même sa politique jusqu'au bout. Donc ça permet aussi d'avoir une politique peut-être plus claire à certains moments clés, en éliminant certains adversaires qui auraient peut-être brouillé les cartes et pas permis à la cité de s'organiser véritablement.
On peut dire que c'est une forme de vote.
C'est une forme de vote. D'ailleurs, on a retrouvé sur l'agora des tas de petits tessons comme cela, avec des noms inscrits dessus. Ça montre que vraiment l'effectivité de ce processus.
Ce droit de vote, en l'occurrence, pour oser l'anachronisme, est loin d'être acquis pour tout le monde. On parle de citoyens qui sont peu nombreux.
Oui, voilà, il y a les citoyens, il y a tous ceux qu'on appelle les métèques, c'est-à-dire que dès que vous venez d'une cité d'à côté, même la cité d'à côté, vous êtes étranger, vous êtes xénos, vous êtes métèque si vous habitez ici, donc vous n'avez pas de droit politique. Ne sont citoyens que une certaine catégorie de personnes. Et alors, suivant les époques, justement, cette participation des citoyens à la vie politique varie. Par exemple, à l'époque de Solon, il y a déjà une réforme qui permet une plus grande, disons, représentativité des citoyens dans les charges publiques. Elle va encore s'accentuer avec les réformes de Clisthène. Et ensuite, il y a des mesures qui vont être proposées, d'ailleurs qui vont être très contestées, notamment par Périclès, mais aussi par Ephialte avant lui, qui seraient d'introduire une sorte de paiement, d'indemnité pour les gens qui viennent remplir certaines tâches politiques, comme par exemple faire partie des tribunaux. L'idée, c'était de permettre aux gens qui habitent pas dans la ville, mais qui sont des paysans, qui habitent dans le territoire, de se libérer une journée entière, voire plus, pour pouvoir siéger au tribunal. Donc c'était une mesure pour permettre l'accès des plus éloignés ou des plus démunis à la vie politique. Mesure qui va, encore quand elle s'accentuera avec Cléon à la fin du 5e siècle, donner un peu des sortes de juges professionnels qui vont faire la queue devant le tribunal chaque matin pour être sûr d'avoir leur indemnité et de siéger. On dit qu'il y avait beaucoup de vieux à un certain moment qui profitaient d'avoir cette indemnité pour pouvoir vivre.
Mais les femmes n'en font pas partie.
Elles sont citoyennes, oui, mais elles ne participent pas aux assemblées et aux autres organes politiques, effectivement.
Donc quand les voit-on, ces femmes, sur l'agora ?
Cela dépend beaucoup de comment est-ce qu'on regarde les documents qui nous sont arrivés. Parce que si vous regardez les textes littéraires, et si vous faites une image des femmes dans l'espace public par les textes littéraires, vous avez une image des femmes, alors bien sûr des femmes, la couche sociale supérieure, qui sont chez elles, dans le gynécée, donc leur lieu réservé dans la maison, dans l'oikos, et qui ne sortent de chez elles que pour les affaires religieuses, pour les processions et les choses comme ça. Si vous regardez les comédies, si vous regardez aussi les images, par exemple les peintures de vases et autres, vous avez une toute autre image de la société, où les femmes certainement circulent sur l'agora. Donc vous avez un discours idéalisé qui est transmis par les textes et une vie quotidienne qui certainement est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus multicolore de ce côté-là.
Vous avez évoqué la comédie, c'est vrai que c'est aussi dans cette antiquité grecque que naît le théâtre. Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait un théâtre sur cette agora d'Athènes ?
Alors c'est un sujet qui est très débattu parce que archéologiquement on n'a rien trouvé. Mais on sait par des textes, des scolies, donc des textes, des commentaires tardifs sur les textes classiques par exemple, qu'il y avait des représentations théâtrales probablement sur l'agora à partir du fin 6e siècle et début 5e siècle. On mettait des échafaudages, enfin des estrades en bois, pour assister à ces cérémonies. Parce que le théâtre antique, c'est pas une saison théâtrale comme on a nous pendant toute la belle saison. Ce sont des moments précis qui sont liés à des fêtes religieuses, et des fêtes religieuses de Dionysos en particulier. Les fêtes de Dionysos ont la particularité d'être toutes pendant la mauvaise saison, c'est-à-dire pendant fin de l'automne, hiver, jusqu'au tout début du printemps. Il n'y avait pas de théâtre permanent jusqu'au début du 5e siècle. On nous dit qu'il y avait une orchestra sur l'agora. Alors une orchestra, vous savez, c'est cet endroit, le centre du théâtre, dans lequel évoluaient des chœurs, enfin un chœur, un groupe de danse et de chants poétiques, et des acteurs qui donnaient leur réplique. Cet orchestra, c'est un espace vide par définition. Ce qui donne la forme au théâtre, ce sont les gradins. Et quand on retrouve un théâtre, actuellement, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve les gradins. C'est ça qui laisse la trace la plus patente dans le paysage, etc. Donc, si vous avez des estrades en bois autour d'une place vide, archéologiquement, c'est très difficile à cerner. On pense qu'il y avait une orchestra dans l'agora. On l'a toujours pas retrouvée, mais peut-être que c'est normal qu'on ne retrouve pas une orchestra. D'abord parce qu'on en cherche une ronde et elle n'était pas ronde. Aussi, il est possible que ces premiers théâtres temporaires aient été érigés sur une autre agora. Parce qu'il est très probable qu'il y ait eu une autre agora avant celle dont on parle, qui est la plus connue, la plus célèbre, une agora archaïque qu'on n'a toujours pas trouvée.
La poésie, Dominique A.
La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est. Puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Après avoir tant annoncé un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet où depuis des siècles il pendait, puis s'en était allé, puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème pour nous sauver, sans un poème pour nous sauver. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer. Par chez toi et sur ton bureau, j'ai vu les ratures au stylo. Quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains, ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher.
On les imagine se promener sur l'agora en tunique blanche, fréquenter le théâtre, se rendre dans un sanctuaire. Autant de choses qui ont existé. Mais c'est très loin de représenter toute la réalité du quotidien à Athènes.
Monumental.
Pourtant, sur l'agora, les gens ordinaires et les plus grands esprits de l'époque se côtoient.
Ils ont vraiment existé ici. Périclès, Sophocle, Thucydide, tous ces grands Athéniens ont foulé le sol de cette place et fréquenté les bâtiments publics alentour.
Et parmi eux, un personnage fabuleux. Un homme dont la pensée novatrice et radicale n'aurait pas pu se révéler ailleurs que dans cette société athénienne. Le père de la philosophie occidentale, Socrate.
Il dit, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Si on n'interroge pas son existence, autant mourir tout de suite.
Mais ce questionnement incessant n'est pas au goût de tous. Sur l'agora, il exaspère ses concitoyens.
C'est un véritable casse-pied. Il ne se tait jamais. Il passe son temps à harceler les gens avec ses questions.
Extrait du documentaire « L'épopée de la Grèce antique » avec les voix de Sue Alcock, professeur d'archéologie, John Camp, archéologue, et Yanis Simonides, professeur de philosophie.
Socrate, c'est une figure qui est très haute en couleur et qui évidemment a eu une importance capitale dans le développement de ce qu'on va appeler la philosophie. Là aussi, les débuts de la philosophie, c'est toujours difficile de mettre un début. Il y a les pré-socratiques avant lui, comme leur nom l'indique, ou les physiciens, plutôt d'Asie mineure.
Anne-Françoise Jacoté, archéologue chargée de cours à l'Université de Genève, spécialiste de la Grèce antique.
Socrate est un citoyen athénien. Il vit la vie de citoyen athénien, il a eu des charges politiques, il a été tout à fait athénien. C'est pas un philosophe qui se retire dans son monde. Donc il arpentait certainement l'agora, il y a aucun doute là-dessus. Et même dans sa défense, au moment de son procès en 399, bon, défense que l'on a par la transcription de Platon, notamment, Socrate va nous dire que, justement sur l'agora, on peut trouver des livres de philosophie qui disent un peu ce qu'il a dit lui, donc il n'est pas le premier à l'avoir dit, ce sur quoi on l'accuse, justement, sur la place des dieux, qu'il remet un petit peu en question.
Et qu'il pervertirait la jeunesse aussi, en l'obligeant à s'interroger sur toutes les notions, y compris celle du pouvoir.
Oh, celle du pouvoir, je ne sais pas tellement s'il bouscule les questions de pouvoir, il s'occupe vraiment plutôt de l'homme en tant que tel, mais c'est vrai qu'il est entouré surtout de jeunes hommes qui vont ensuite être des citoyens de premier ordre, parce que c'est évidemment des jeunes de l'élite qui va ensuite participer à la cause politique. Ce qui a sûrement aussi desservi Socrate dans son procès, c'est que ont été disciples, entre guillemets, de Socrate, des gens qui vont être très perturbants pour la politique athénienne. Et donc, il y a plusieurs personnages un peu sulfureux qui l'auront côtoyé, et l'amalgame va être très vite fait entre ces personnages qui sont très mal vus et Socrate.
Expliquons peut-être ce lien entre Socrate et l'agora, hein, qui finalement nous présente sa manière de philosopher. C'est qu'il déambule sur la place et il accoste toute personne qui se présente à lui en lui posant des questions sur elle-même, sur ce qu'elle croit.
Oui, en tout cas, il construit un dialogue sur une question fondamentale qui touche l'homme dans son essence, dans sa perception de la vie, de la mort, de la beauté, de l'âme, toutes sortes de questions comme cela. Il le fait en tant que citoyen. Alors on sait que par certains dialogues qu'il allait aussi se poser dans des petits endroits idylliques près de l'Ilissos, de l'autre côté de l'Acropole, là où il y a un petit ruisseau ou même une rivière, des arbres qui font de l'ombre, etc., où c'est parfaitement tranquille. Mais on peut l'imaginer très bien aussi, on sait qu'il parcourait cette agora tout à fait communément.
Dans une société assez concentrée comme Athènes, il est évident qu'un individu qui remet constamment en cause des principes de gouvernement séculaire est perçu comme un danger important, au moins par certaines personnes. On comprend très bien pourquoi quelques centaines d'habitants voulaient se débarrasser de lui.
Les Athéniens vont juger l'homme qui a osé contester leur façon de vivre. Au moment du vote, le verdict est sans surprise. Socrate est jugé coupable et condamné à mort. Il réagit avec une sérénité et un calme étonnant.
Il est temps que nous nous quittions. Moi pour mourir et vous pour vivre. Qui de nous aura le destin le plus heureux? Personne ne le sait, excepté Dieu.
Calicomon meledima semen Cypris, ad aganovle pharos pitho rodeisin en anthesin threpsan. Evria leglafkeon chariton thalos, Calicomon meledima semen Cypris.
Il y a des écoles différentes, évidemment, mais chaque école va se faire caractériser par un lieu en général. Par exemple, Platon, ça sera l'Académie, ce faubourg, juste à l'extérieur d'Athènes. Aristote, ça sera le lycée, un autre gymnase, aussi un peu à l'extérieur d'Athènes. Les stoïciens avec Zénon prendront leur quartier, entre guillemets, en tout cas au départ, près de la Stoa Poikile, donc le portique peint, le portique multicolore, littéralement, qui se trouve tout au nord de l'Agora, dans lesquels ils vont commencer à disserter. Mais peut-être qu'on peut juste, puisqu'on est dans les portiques, parler peut-être de l'importance des portiques pour revenir peut-être à une question d'urbanisation de l'espace de l'agora. On a dit que l'agora était d'abord un espace libre qui se faisait délimiter par une borne, par la parole. Mais on voit très vite, quand il y a monumentalisation, donc secondaire mais quand même importante, que cela va se faire là le plus souvent par des portiques. On va avoir donc la Stoa Basileios dont on a déjà parlé, juste en dessous, toujours contre cette colline de l'agora, la Stoa de Zeus, qui va être une monumentale stoa avec deux ailes comme ça, qui est aussi très symboliquement importante parce que c'est un Zeus Eleutherios, un Zeus de la liberté dont le culte semble-t-il a été décrété juste après l'invasion des Perses. Vous savez qu'en 480 les Perses vont arriver à Athènes, qui a été libérée de la plupart de ses... Enfin, tout le monde a fui, et tout le monde s'est réfugié alors sur les bateaux pour les combattants, pour combattre Xerxès à Salamine et remporter la victoire que l'on sait. Donc ils vont occuper la cité et raser plusieurs choses symboliques, et notamment l'agora va être endommagée. Et donc ce culte de Zeus Eleutherios qui va prendre place dans un portique, ce qui est assez...
Inhabituel,
exactement, va avoir toute une importance symbolique ici. Ça donne un portique, il faut bien imaginer, c'est une colonnade de façade qui a l'avantage de structurer l'espace, de lui donner un aspect monumental, tout en ouvrant sur un espace qui se développe derrière. Et les portiques sont pratiques parce que vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous pouvez y exposer des tableaux, comme c'est le cas dans la Stoa Poikile, ou des tableaux comme on va présenter la bataille de Marathon, d'autres batailles, etc., qui glorifie aussi Athènes, mais vous pouvez aussi y déambuler, y faire vos affaires commerciales, à l'ombre ou à l'abri de la pluie quand il pleut, discuter de toutes sortes de choses, philosophie comme on le voit, mais politique aussi. Et on va voir se multiplier ces espaces qui sont à la fois structurants et en même temps polysémiques, donc dans lesquels on peut faire toutes sortes de choses. Il y aura très vite, vers 425-400, donc à peu près en même temps que la Stoa de Zeus qui se construit aussi vers 425-410, au sud, une grande stoa. Les deux du nord, donc la Stoa Poikile, qui est aussi du 5e siècle, et la Stoa d'Hermès. Donc on a déjà trois côtés qui sont fermés, entre guillemets, par ces stoas. Et va venir, alors plus tardivement, mais compléter ce dispositif, à l'est, la grande stoa d'Attale, d'Attale II, vers 150 avant notre ère. Cette stoa qui a été restaurée et disons, reconstruite par les Américains, qu'on peut voir encore debout actuellement, une stoa sur deux étages, dans lesquels il y avait plein de boutiques au fond, donc rôle commercial, mais aussi espace de discussion, de toutes sortes de choses. Et ce qui est important de voir, c'est que cet Attale II va offrir ce grand portique à Athènes en reconnaissance de l'éducation qu'il y a suivie. C'est un roi de Pergame, Attale II, qui donc est très reconnaissant à Athènes, mais Athènes a quel sens à ce moment-là ? Politiquement, pour la politique extérieure, ça fait bien longtemps qu'elle n'a plus aucune indépendance, qu'elle dépend des puissances qui vont se développer à partir de l'époque hellénistique, à partir de Philippe, Alexandre et ensuite tous ceux qui vont suivre Alexandre. Et ce qu'on reconnaît à Athènes, c'est un rôle culturel, comme on dirait aujourd'hui. Donc de plus en plus, l'agora d'Athènes va devenir un lieu avec des monuments culturels.
Donc elle va perdre peu à peu sa fonction démocratique, politique ?
Non, elle ne va pas la perdre, c'est-à-dire qu'elle elle la conserve pour les affaires intérieures. Mais la politique extérieure d'Athènes est guidée par les instances majoritaires extérieures, les grandes puissances, comme on dirait aujourd'hui.
Et comment évolue-t-elle ensuite cette place quand arrive vraiment la période romaine ?
Alors justement, elle va se boucher, elle va perdre son rôle de place. Agrippa et donc Auguste vont construire un grand Odéon, donc une sorte de petit théâtre couvert dans lequel on fait justement des récitations, des récitals de musique, de rhapsodie, des concours de rhétorique, enfin toutes sortes de choses que nous appellerions aujourd'hui culturelles. Et donc vous allez avoir ce grand monument, parce qu'il va être très haut, très grand, pas forcément très beau, mais enfin très fonctionnel aussi, mais qui a une fonction complètement autre et plus politique. Et donc la place va se boucher, notamment à la même époque ou juste postérieurement. Vous allez avoir aussi au plein centre de la place, juste en dessous de l'hôtel des douze dieux, un temple d'Arès qui va être déménagé pour être placé là. Donc à l'époque romaine, on prend un temple du 5e siècle, on le démonte pièce par pièce, on le sait parce qu'il y a sur les pierres des marques qui montrent qu'on a démonté le kit et qu'on a fait des marques pour pouvoir le remonter ensuite, qui va se mettre en plein milieu. Ça veut dire qu'on monumentalise la place pour en faire une sorte de place qui dit la grandeur d'Athènes, mais une sorte de grandeur culturelle, monumentale, architecturale, etc. Mais disons, c'est plus le rôle politique d'Athènes qui est magnifié dans cette agora. Il y a une chose qui reste peut-être dans toute l'Antiquité, c'est la grande voie des Panathénées, cette voie qui permet le passage depuis cette fameuse porte dont on parlait, le Dipylon, jusqu'à l'Acropole, notamment des grandes processions des Panathénées. Alors les Panathénées, comme son nom l'indique, c'est la grande fête d'Athènes et d'Athéna, vu qu'elles se confondent. Enfin, Athéna est l'éponyme de la cité d'Athènes, c'est elle qui la patronne depuis le début. D'ailleurs, elle s'est battue contre Poséidon, nous dit-on, pour obtenir l'Attique. Elle a gagné en donnant l'olivier, qui lui a fait remporter le concours contre Poséidon. Et donc, chaque année, l'équivalent de notre mois de juillet actuel, Hécatombéon dans l'Antiquité, c'est-à-dire le premier mois de l'année, on fait une grande fête qui, tous les quatre ans, prend une ampleur tout à fait particulière. Ce sont les grandes Panathénées, qui ont été instituées, semble-t-il, par Pisistrate vers 566. Et donc, c'est toute la cité d'Athènes qui défile et qui se présente à elle-même sa propre identité dans ce grand défilé, avec des concours, alors, en tout cas à l'époque classique, des grands concours que l'on voyait aussi depuis la place de l'Agora. Là, on mettait probablement aussi des estrades pour, en tout cas, les spectateurs les mieux lotis. Et où on voyait ces concours qui ressemblent un peu aux concours olympiques, donc où la jeunesse dorée s'affrontait, mais où il y avait aussi des concours de poésie, de musique et d'autres choses comme ça. Donc cette voie des Panathénées, elle est très importante parce qu'elle est un axe qui permet de dire quelque part l'identité d'Athènes, et comme par hasard, elle passe par l'Agora pour monter ensuite sur l'Acropole, qui est le lieu même du temple d'Athéna, le grand hôtel d'Athéna derrière, où on fait ces grands sacrifices-là. L'Agora, elle se dessine petit à petit architecturalement, mais ce qui la fait vraiment vivre, ce sont des choses immatérielles, finalement, comme cette voie de passage, ces événements qui s'y passent, ce que l'on y fait, plus que ce qui y est véritablement comme monumentalité. Et quand la monumentalité s'impose, alors graduellement, mais de façon très marquée, à partir de la fin de l'époque hellénistique, avec toutes ces stoas qui entourent, notamment stoa d'Atale, la stoa du milieu, etc. La monumentalité s'impose. Et on se demande où est le sens encore de l'agora à ce moment-là. Donc comme si l'agora était par essence immatérielle, comme on l'a vu au départ avec cette borne de l'agora qui dit « je suis la borne de l'agora », donc qui ouvre l'agora sur un espace que rien ne délimite si ce n'est la parole, le fait de dire « eh ben voilà, là c'est l'agora ». Eh bien cette immatérialité, elle est là et elle n'a pas besoin de la monumentalité forcément pour donner son sens à l'agora.
Merci Anne-Françoise Jacotet, archéologue chargée de cours à l'Université de Genève, spécialiste de la Grèce antique.
All right. Jane.
Stéphanie Coudray, attachée de production, Christian Morero à la réalisation, Nathalie Schauenberg à la programmation musicale et bien sûr Joanne Dusset, toute l'équipe de Monumental vous souhaite une belle suite de journée à l'écoute de la première où il est 14h.